podcast.
Jeudi 26 février 2026. On est de retour pour un nouvel épisode de Radar et vous aurez compris que c'est pas Anthony Desaulniers qui est à l'animation cette semaine. Olivier Paiement qui est là. Deso, il profite de petites vacances, là. Il s'est rechargé un petit peu les batteries cette semaine. Il fait du ski de fond en Mauricie. Il passe du temps avec son père. D'après moi, il va aussi retenir son souffle avec son cousin. Mais voilà, c'est moi qui est à l'animation aujourd'hui. Vous l'avez entendu. Hugo Reich qui est là aujourd'hui. Comment ça va, Hugo?
Ça va bien, mais c'est tough là, quand tu me fais rire comme ouais. ça. Ouais. Pas attendre que tu m'introduis.
On a des gros souliers à chausser aujourd'hui. Ouais. Je chausse les souliers de Deso. Tu chausses mes souliers.
À date, ça va bien parce que je suis champion du quiz. Fait que...
On parle plus de ça. Et on a un nouvel invité avec nous cette semaine qui chausse justement tes souliers, Hugo. Pierre-Olivier Deschênes / Tommy / Chocho. Il porte énormément de surnoms ici à BPM. Mais on va essayer de t'appeler PO. Là. Sauf que si pendant l'émission, je glisse, là, je finis par t'appeler Chocho ou Tommy... comprendrez de qui je parle. Comment ça va, mon cher PO?
Ça va super bien. Vraiment content de vous accompagner dans le podcast, dans l'épisode.
En plus, t'as mis un beau chandail Ivan Demigod aujourd'hui.
On channel vraiment notre inner Deso.
Oui.
C'est Demidove.
C'est ça. Ça y rend hommage et c'est surtout beaucoup mieux que le chandail que t'avais porté lundi cette semaine.
Oui.
Après que le Canada a perdu la finale contre les États-Unis, PO est arrivé à la station avec un chandail des Devils de Jack Hughes.
Semaine, c'est un blasphème.
J'en reviens toujours pas.
Comment tu peux
en
faire
fait, juste
ça?
Ça aurait pu faire en sorte qu'on ne te prenne pas pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais t'es gentil, tu connais vraiment ton hockey, fait qu'on va s'amuser ensemble. Commençons justement par parler du tournoi olympique. Évidemment, les gars, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Ça fait déjà 4-5 jours que le tournoi est fini. Je pense juste de manière générale, on est content que les joueurs de la Ligue aient été de retour. Ça a été un succès sur toute la ligne, même si le Canada, décevant là, quand même de perdre en prolongation contre les Américains. Mais si vous aviez une conclusion à tirer de ce tournoi-là, qu'est-ce que ce serait?
C'est qu'on peut rien prendre pour acquis. Honnêtement, le Canada a tellement passé proche de partir contre la Tchéquie, contre la Finlande, ça a été facile.
Même puis si c'était le karma un peu de perdre contre les Américains.
Oui, exactement, c'était le karma. Le fait qu'on ne soit pas, on ne les ait pas affrontés du tournoi, le fait de Bill Guérin depuis... qui commence à bâtir son équipe. C'est « je bâtis une équipe pour battre le Canada, tatatitatata ». On domine l'équipe en finale, mais finalement, c'est même pas nous autres qui gagnent. Ça fait mal. Je pense que les joueurs du Canada ont quand même une certaine reconnaissance à avoir de leur parcours. Je pense que ça les a solidifiés en tant que groupe aussi, parce que on l'a vu tout de suite pour ceux qui ont effectué un retour dans la Ligue nationale. Ils ont eu comme une bougie d'allumage. Connor McDavid a été flamboyant. Tage Thompson... je sais pas si vous avez vu, là. D'ailleurs, vole la rondelle à Jack Hughes pour faire gagner une match au sable. Mais il y a tous des joueurs qui sont revenus du tournoi olympique qui ont été tout feu tout flamme, sérieusement.
Ils portent la même casquette après, ils se volent la rondelle. PO, est-ce que tu as quelque chose que tu as retenu en particulier de ce tournoi?
Ben moi, qu'est-ce que j'ai retenu, c'est qu'on pensait que le problème au Canada, c'était les gardiens.
Ouais.
Mais que finalement, moi, je pense que c'est plus la défense. Oui, il y avait Makar qui jouait très bien. Mais dès qu'on a perdu Morrissey, il n'y avait plus grand monde qui relançait l'attaque autre que justement Makar. Puis Binnington, il a super bien fait. Logan Thompson aussi dans le match qu'il a joué. Donc, je me dis, c'est plus la défense le problème que les gardiens.
Là. Ouais, puis ce qui est inquiétant, c'est que là, déjà cette semaine, on a commencé à se pencher sur des formations possibles pour 2030. D'ailleurs, sur le processus, ils ont passé beaucoup de temps là-dessus cette semaine, si jamais ça vous intéresse. Mais si tu regardes la défensive du Canada dans 4 ans, ce sera pas bien, bien mieux. Oui, tu as Mathieu Schaefer qui va s'intégrer à ça, qui va former une superbe paire avec Kyle Makar. Mais après, c'est assez ouvert. Ça, c'est inquiétant. Puis dans cette direction-là, les gars, Mathieu Tkachuk, après le match pour la médaille d'or, a déclaré que le hockey, c'est maintenant le sport des Américains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là, prenant en considération qu'ils viennent juste de battre le Canada, de gagner un tournoi best on best, que l'an passé aux Quatre Nations, ils ont été en un but de gagner ce tournoi, et que depuis plusieurs années, sur la scène internationale, au Mondial Junior notamment, les Américains dominent. Selon vous, est-ce que c'est maintenant le sport des Américains?
Non, pas en tout. Honnêtement, les Américains peuvent se vanter d'avoir les meilleures installations pour le développement des joueurs, mais je sens que le talent, la base de joueurs de hockey, le pourcentage de joueurs qui peuvent se rendre dans la Ligue nationale est quand même très fort du côté du Canada. On a des bonnes ligues juniors et je suis pas prêt à dire que c'est le sport des Américains parce que avec la transition de la NCAA, les Américains plus jeunes, mettons genre 15-16 ans, ils vont se retrouver à avoir beaucoup d'intérêt envers les ligues canadiennes pour ensuite faire le saut. Ils ont plus d'argent, les Américains. C'est sûr que les programmes NCAA, les calendriers vont être favorables au développement du joueur. Mais quand même, le Canada est quand même là, il est dans la course. Moi, je suis pas prêt à dire ça. Surtout quand ton équipe s'est fait dominer toute la game puis t'as gagné par un but.
Vas-y donc, toi, le monsieur Jack Hughes.
Si tu regardes les meilleurs joueurs au monde, si tu fais un top 10, je pense qu'à part Quinn Hughes, il n'y en a aucun qui sont américains. Puis les tops,
bon
ça va être McCarr, McKinnon, ça va être McDavid, Celebrini qui s'en vient aussi dedans.
OK, mais est-ce que c'est pas justement ça le problème du Canada? C'est qu'on se contente puis on se satisfait du fait que si tu regardes justement les meilleurs joueurs au monde, ils sont tous canadiens. Si tu regardes les jeunes meilleurs joueurs au monde, les générationnels, là, on a vu Celebrini, mais t'as Bédard, t'as Matthew Schaefer, tu regardes les prochains repêchages, Gavin McKenna, Landon Dupont, ce sont des Canadiens. Et que ça fait en sorte qu'on sous-estime le fait qu'on a moins de profondeur qu'on en avait avant. Si tu regardes les chiffres à travers la Ligue nationale de hockey, chaque année, la proportion de Canadiens baisse et que de manière générale, oui, on produit le meilleur 1%, mais que dans le reste, ça fait un petit peu défaut et que c'est là justement que les Américains sont en train de nous rattraper et que c'est pour ça qu'ils ont été capables d'aller chercher la médaille d'or.
Le bassin n'est pas pareil non plus. Là,
on a un plus gros bassin ici, ça c'est sûr.
Ouais, ouais, ouais,
mais il y a plus de gens aux États-Unis. Là.
Mais c'est ça, les marchés sont plus attrayants aux États-Unis, c'est sûr et certain, puis les ligues vont se convertir vers là. Tu peux regarder n'importe quelle grande ligue professionnelle, il va tout le temps avoir un push pour que les Américains aient le dessus un peu. Je fais un comparatif, mettons, avec la Formule 1 qui n'est pas... Pareil. C'est un groupe américain qui a décidé d'acheter la Formule 1. On a amené plus de Grands Prix aux États-Unis. On a maintenant deux écuries américaines au sein de la grille. On a un pilote américain. Finalement, il était trop poche, il est parti. Mais ça fait en sorte qu'on essaie d'américaniser les grands sports. Puis c'est normal, je pense.
Avec, ben,
avec
l'intérêt, d'argent.
Avec l'argent, exact. Mais je suis pas prêt à dire que le Canada fait juste produire le 1%. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de bons joueurs de soutien canadien auxquels on parle pas, mais à cause du bassin qui est plus petit, l'écart est très grand entre les joueurs générationnels, les franchise players, les joueurs, les game breakers, comparativement au reste des joueurs. Là,
dans tous les cas, dans tous les cas, puis ce qui est fascinant, c'est que Hellebuyck vole pas la game ou il marque un but, le Canada marque un but puis on tient un discours complètement différent. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même que ça serve d'un mini wake-up call puis qu'on se regarde un petit peu dans le miroir parce que il y a certains trucs qui font défaut. On produit plus de gardiens.
Ça c'est vrai.
Ça c'est clair, on produit plus de gardiens élites. Au Québec en particulier, on produit plus de joueurs élites tout court. Il y avait aucun Québécois avec la formation canadienne. Donc définitivement, il y a une introspection à avoir. Maintenant, c'est fini les Olympiques. On n'en parle plus pour, disons, les trois prochaines années et demie. Ouais. Et on se reparle, les gars, à Radar saison 5 pour refaire la formation canadienne.
Exact.
Ligue nationale de hockey. Là, la date limite des échanges arrive dans 8 jours exactement. L'action a repris hier. Donc, on n'a pas eu tant de matchs à se mettre sous la dent. Le reste de cet épisode va surtout être consacré à ça, à la date limite des échanges.
Ouais.
Quels joueurs pourraient être échangés? Quelles équipes vont acheter? Quelles équipes vont vendre? PO, est-ce qu'il y a un joueur ou une situation que tu suis particulièrement, peut-être une vedette que tu te dis, j'ai vraiment hâte de voir si elle va changer d'adresse?
Ben moi, c'est pas mal plusieurs joueurs dans les Flames, parce qu'on le sait,
il
faut qu'ils fassent une reconstruction, mais ils ont quand même des joueurs intéressants comme Kadri ou Uyghur à défense, qui ont déjà échangé l'année passée Anifin, puis cette année Anderson.
Blake Coleman en attaque aussi.
Blake Coleman aussi, qui est très intéressant. Donc moi, je me dis que les Flames, en général, ils pourraient vraiment être très intéressants. C'est une équipe qui a plusieurs joueurs qui pourraient partir. Puis aussi, un autre joueur que je me demande, c'est Elias Pettersson avec les Canucks.
Ouais.
Les Canucks sont derniers de la Ligue de beaucoup. Ils ont échangé Quinn Hughes. Mais là, Pettersson, il connaît pas les meilleures saisons. Il a un gros salaire. Mais en même temps, si quelqu'un cherche un deuxième centre pour faire un push, ça pourrait être très intéressant.
Les deux équipes que tu viens de mentionner, ça va être intéressant à suivre. Parce qu'à travers tout ça, tu as Gavin McKenna aussi qui est à prendre en considération. Un gars qui vient de l'Ouest, grandi à Yukon, joué l'an passé dans le junior à Medicine Hat. Si t'es les Flames ou les Canucks, c'est l'année parfaite pour tanker. C'est l'année parfaite pour liquider tes actifs, couler et aller chercher ta vedette. Puis pas juste une vedette générationnelle, mais un talent local en plus. Un gars qui va vendre des billets là. Je suis d'accord avec toi. Ça, ce sont deux équipes à suivre assurément.
J'ai une question pour vous autres. Où vous pensez le meilleur fit pour Gavin McKenna? Est-ce que c'est Vancouver ou Calgary?
Dans les deux cas, honnêtement, il est dans marde. Ça, c'est deux équipes que même tu regardes leur banque d'espoir, c'est pas super. Je donnerais peut-être un petit avantage à Calgary parce qu'ils ont quand même repêché dans les dernières années.
Barrett, Gridin qui est fort.
Exactement. Même, ils ont repêché un gars. Son nom m'échappe, mais je pense au cinquième tour au repêchage l'an passé. Il est premier pointeur dans la NCAA en ce moment. Donc, pour moi, la banque d'espoir des Flames est un petit peu plus alléchante. J'ai le nom du gars Ethan Wittenback qui joue en ce moment à Quinnipiac. Il a 54 points en 34 matchs. Fait que, en tout cas, les Flames ont déjà de quoi de plus. Puis, je veux qu'on fasse la discussion Calgary-Montréal parce qu'il y a des liens évidents à faire.
Ben oui.
Nazem Kadri, depuis le début de l'année, on entend des rumeurs à son endroit. Est-ce que le Canadien est intéressé à lui? Le problème de Nazem Kadri, c'est 7 millions de dollars pour encore plusieurs saisons. Mais il comblerait un besoin, c'est certain. Mackenzie Weegar, défenseur droitier. Ça, c'est une faiblesse à Montréal. Il coûterait cher à aller chercher, mais pareil. Blake Coleman, c'est un autre nom aussi qui a été lié au Canadien, amènerait énormément de robustesse. Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous voyez dans votre soupe si vous vous mettez dans la peau de Kent Hughes?
Ben, c'est sûr que moi, je pense que la priorité de Kent Hughes, ça va être d'aller chercher un def. Là. Je pense que c'est vraiment ça.
Pour toi, c'est la priorité numéro un du Canadien?
Oui, parce que on a un entraîneur qui a confiance, qui a confiance en 5 défenseurs seulement.
Ouais.
Ça fait en sorte que, naturellement, il y a une rotation qui se fait. Fait il y a un trou qui se crée, il y a des habitudes qui vont être délaissées parce qu'il y a constamment un ajustement au niveau des joueurs. Je pense que surcharger Alexandre Carrier sur le top 4, c'est pas bien.
Non.
Parce qu'on l'a vu depuis le début de la saison, quand il joue trop de minutes, il commence à faire des erreurs, il commence à être épuisé, puis il y a des risques de blessure parce qu'on sait que Carrier, c'est pas le défenseur qui se protège de mieux sur la patinoire.
Une fois par game, il se fait ramasser, là. C'est sûr.
Puis je pense qu'un gars comme Weegar, c'est un vétéran qui a joué pour des grosses équipes. Oui, qui a quand même un bon salaire, mais le Canadien, c'est pas comme s'il avait pas d'espace présentement. Pourrait donner une autre opportunité à un gars, mettons, comme Jack Eye. C'est plate, mais je pense que si on a à faire une transaction avec un club, ça va être soit Jack Eye ou Ryan Backer qui va partir. Weegar, c'est un gars qui solidifie le top 4. Là, on se retrouve à avoir deux gros défenseurs top 4.
Coûterait vraiment cher, par contre, Weegar.
Coûterait extrêmement
cher,
parce que
c'est un des bons défenseurs droitiers de la Ligue. Tommy, est-ce que tu as la même lecture que Hugo, que la défense, c'est le point faible du Canadien en ce moment et que c'est là où la direction doit tenter de pallier un petit peu les faiblesses qu'on a en ce moment?
Ben, pendant tout l'été, on s'est dit que c'était un centre qu'on avait besoin. Mais avec l'émergence de Kapanen, puis en plus de ça, on est allé chercher Dano. Je pense que là, c'est plus un problème. On n'a pas besoin avec Michael Hage qui s'en vient. Donc, je pense qu'on est correct là. Il y aurait peut-être un ailier du premier trio si Dak, ça fonctionne
pas. C'est plus une transaction d'été, ça, j'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. C'est une transaction hockey, là, qu'on dit.
J'ai pas l'impression qu'on a besoin d'un joueur élite pour le premier trio. Juste un gros gars qui peut compléter si Dak fonctionne pas un peu. Blake Coleman pourrait fonctionner. Je sais que c'est pas un joueur de premier trio, mais je pense qu'il pourrait amener de l'énergie. Sinon, oui, un défenseur top 4, parce que Carrier, c'est plus un joueur de troisième paire, puis Goulet. Une chance sur deux qu'on le voit pas en série puis qu'il va être blessé. Donc un Weegar ou un Parayko, pour moi, ça serait vraiment parfait.
Moi, je continue à croire en Kirby Dak. Son potentiel est énorme. Ancien troisième choix au total qui, oui, a eu les blessures, mais le Canadien croit encore en lui. Il lui donne cette occasion-là sur le premier trio. Et les 25 prochains matchs, même les 3-4 d'ici la date limite, ils vont être déterminants pour son avenir. Le côté optimiste en moi croit qu'il va être capable de saisir cette occasion-là justement à cause de son talent. Lui, ça a toujours été les blessures. Mais c'est le complément parfait pour Suzuki et Caulfield.
Ouais, puis ils s'entendent bien avec les gars en plus.
Ben oui, exact. Ils sont arrivés dans l'équipe. Tu sais, il est arrivé. Ça fait quand même quelques années qu'il est avec le Canadien. Puis il est capable de faire ce que Slav faisait de bien avec Suzuki et Caulfield. Être le gros bonhomme qui va chercher la rondelle en fond de territoire, qui gagne des batailles. Pas besoin de faire un point par match, Kirby Dach, pour être utile sur le premier trio. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est un défenseur que le Canadien doit aller chercher. Ouais. Pas nécessairement un top 4, mais au moins un gars qui peut jouer soir après soir, à la limite sur une troisième paire, parce que. La meilleure façon de savoir ce qu'un entraîneur pense de ses joueurs, c'est leur temps d'utilisation.
Exact.
Et autant Struble que Jack Eye ne joue pas. Jack Eye, à son dernier match avec le Canadien, c'était 5 minutes 50.
Épouvantable.
12 fois à ses 18 derniers matchs. Évidemment, on enregistre avant la rencontre contre les Islanders. Arbor Jack Eye a joué moins de 10 minutes avec le Canadien. Dans ses 32 premiers matchs de la saison, c'était juste arrivé 4 fois. Fait clairement, il ne fait pas confiance en eux. En série, en plus, tu peux avoir des blessures. Tu ne veux pas te retrouver avec Struble et Jack Eye dans la formation. Fait que peut-être. T'sais, à la limite, c'est un choix de 4 ou de 3 pour un Connor Murphy, un Luke Shen.
Ben, c'est ça que j'allais dire.
Ça me surprendrait pas pour le Canadien.
T'sais, c'est des gars qui ont de l'expérience. Même tu peux inclure Zach Whitelaw là-dedans. Là. Je pense que ces gars-là, si tu es pour changer tes duos défensifs, au moins assure-toi d'avoir un gars qui peut jouer des bonnes minutes, qui peut être fiable.
Un gars qui t'a confiance, exact. C'est ça qu'on veut.
Murphy a joué sur la première paire d'une équipe dégueulasse à Chicago.
Ouais.
Il est capable, il sait c'est quoi pas faire des erreurs. Mais ici, c'est quoi aussi jouer dans l'ombre? Il joue avec Seth Jones. C'était un peu plus difficile à ce moment-là. Donc, c'est intéressant aussi de ne pas trop donner pour avoir quelqu'un de quand même non, fiable. Non. Puis on s'entend, White Cloud, c'est un gagnant. Il a gagné à Vegas et il se retrouve à Calgary. En tout cas, je ne sais pas s'il va vouloir rester là longtemps.
Murphy, j'en profite pendant que Dezo n'est pas là. Ça avait été mon radar il y a quelques semaines. Et Dezo a veto. Mais mon Murphy, mon radar, c'était que Connor Murphy avait atteint le plateau des 800 matchs dans la Ligue. Ça m'avait jeté en bas de ma chaise. J'étais comme, je pensais que ce gars-là... Dans ma tête, ça faisait comme 6 ans qu'il était dans la Ligue, mais j'étais comme... Ouais, Olivier, t'as plus de 17 ans là. Le gars, il était repêché en 2011. Mais...
Ah, mais c'est des gars que tu vois pas grandir.
Ouais, t'es comme... Sérieusement. En plus, il a toujours joué un petit peu dans l'Ouest. Ouais. Fait qu'on l'a comme moins vu évoluer, mais Connor Murphy, c'est un gros bonhomme en plus, un droitier. Par contre...
9e saison avec les Blackhawks.
9e saison avec les Blackhawks, vas-y.
Une acquisition qui pourrait être utile, c'est un peu comme un Carrier l'année passée qui est venu stabiliser, pas besoin du coup de circuit.
Ou comme
à défense.
Dano pendant les fêtes.
Ouais, c'est rien qui a coûté cher, ça n'a pas coûté grand-chose, puis là, ça solidifie vraiment. Et j'ai parlé de quelqu'un sur le premier trio, mais est-ce que ça pourrait vous intéresser de remettre Slav sur le premier, parce que Newhook fonctionnait très bien sur le deuxième trio?
Ben, c'est sûr que c'est une alternative. Je pense quand même que le Canadien va être patient avec Dak, mais. On l'a vu là, dans des situations de fin de rencontre où Saint-Louis veut faire un push de mettre les trois ensemble. Ça s'est déjà passé. Puis avec Slavkovski, l'énergie qui va amener des Olympiques, c'est sûr que je trouve qu'il va avoir une autre coche à son jeu. Mais moi, personnellement, je toucherais pas au deuxième trio. Je pense vraiment que c'est
aussi.
Une arme secrète.
T'sais, oui, il y avait eu beaucoup de succès avec Newhook, mais il y en a eu encore plus avec Slav. Alors que Suzuki Caulfield, là, à un moment donné, c'est des gars de premier trio. Ils sont payés très, 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 très cher. C'est supposé être tes leaders en attaque. Faut qu'ils trouvent une façon que ça fonctionne avec quelqu'un d'autre. Donne-leur cette responsabilité-là. Par contre, les gars, là, j'en profite encore, là, pendant que Dezo n'est pas là, lavons notre linge sale.
Let's go.
Si tu veux faire l'acquisition de quelqu'un, le Canadien n'a pas le choix de sortir un joueur.
Ouais.
Parce que là, en ce moment, avec le retour de Newhook, ils sont à 23 joueurs sur 23.
Hey, ça n'a pas d'allure. Il y a du
Patrick Laine est encore sur la liste des blessés. Et le Canadien a très peu d'argent sous le plafond salarial. Jusqu'à temps que Patrick Laine revienne sur la liste des blessés, ils n'en auront à peu près pas. Dezo m'avait promis la semaine passée que Patrick Laine serait instantanément échangé dès le dégel des échanges. Là, on est le 26 février. Il n'a toujours pas été transigé. On n'entend pas énormément de rumeurs à son endroit à travers la Ligue. Est-ce que vous êtes surpris que Patrick Laine n'a pas encore été transigé? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment arriver? Puis si oui, est-ce que vous voyez un fit quelque part à travers la Ligue?
C'est un meilleur coup de pas aussi en passant de la part de Laine.
Je t'inclus là-dedans toi aussi parce qu'on s'est pogné solide là-dessus.
Parce que la semaine passée, Oli a dit ça va être un plan D pour des équipes. Puis des autres mois, on a dit non,
pour
c'est
vous,
sûr.
Patrick Laine, c'était la 8e merveille du monde apparemment. Là.
Ouais, c'est parce que moi, j'ai dit qu'il y avait un atout élite qui allait intéresser plusieurs clubs. Puis qu'il allait peut-être avoir une échéance qui allait être fait. Fait que meilleur coup de pas, sorry.
Merci Hugo.
C'est correct.
Moi, j'ai bien aimé ce que Marco D'Amico a dit sur le marché. Il a dit qu'en gros, Laine, sa valeur va être le plus haut à la fin, juste à la toute fin, quand des équipes vont manquer le joueur qu'ils voulaient.
Ben, c'est ça qu'il a dit.
Là, ils vont se retourner là-dessus.
Merci.
C'est ça que tu as dit à ce moment-là. Il dit réinvité
pour le podcast la semaine prochaine. Parce que mot pour mot, c'est exactement ce que j'ai dit la semaine passée. Patrick Laine, c'est pas ton plan A, c'est pas ton plan B, c'est pas ton plan C. Mais à 15h moins 15, à la date limite des échanges, quand une équipe va avoir raté toutes les cibles, ils vont se retourner vers le Canadien et dire « Ben regarde, quitte à finir la date limite des échanges, les mains vides, moi te le prendre Patrick Laine, ça va rien coûter de le prendre. Peut-être même que le Canadien va te donner un choix au repêchage pour que tu le prennes avec la retenue de salaire. » Et tout. Mais.
Par contre,
c'est un joueur qui a trop de défauts pour qu'une équipe donne de quoi ou qu'une équipe se pitche pour lui.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je tiens juste à dire qu'il y a des DG qui sont fous dans la Ligue nationale.
Ça, c'est sûr. Mais il y en a moins qu'avant, mais c'est vrai qu'il y en a toujours qui sont fous. Mais tu sais, même si tu regardes à travers la Ligue, y a-tu tant de place où il fit? Y a-tu tant de place où il y aurait vraiment sa place sur l'avantage numérique? On parlait des Kings. Mais Panarin occupe la même place que Laine chez les Kings sur l'avantage numérique. Faut qu'une équipe ait de l'argent disponible sous le plafond. Tu sais, il y a bien des cases à cocher pour que tu acceptes de prendre Laine. Ça prend un certain type de vesteur aussi. Ouais. On l'a vu à Columbus et Winnipeg que c'est pas le joueur le plus facile à intégrer. Je pense qu'avec le Canadien, ça se passe bien. Mm-hmm. Mais pas nécessairement bien n'importe où.
On parle des Hurricanes?
Moi, les Hurricanes, c'est mon... Je pense que c'est ma destination la plus probable à cause de ses liens avec Ehler, son grand chum des Jets.
Ouais.
Ao, c'est son ami aussi. Puis les Hurricanes, chaque année, ils swingent pour la clôture.
Exact. Ils prennent des chances.
Prennent des chances. ça s'est pas bien passé jusqu'à maintenant, Rantanen puis Gensel.
Ouais.
Mais si jamais ils se retrouvent les mains libres, les mains vides à la date limite, ils n'auront pas le choix de s'essayer au moins avec un line-up.
Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça peut être un fit justement où ça a l'air d'être un vestiaire qui est un peu plus, pas individualiste, mais que les joueurs pensent beaucoup à eux-mêmes. Puis écoute, moi je voulais dire Pittsburgh, mais là avec ce que Carl Dubus a fait avec Tristan Jarry puis Brett Kulak, c'est correct. Je pense qu'il y a plus une tête.
Et la blessure, on peut en parler justement des Penguins de Pittsburgh. Blessure, Sidney Crosby va rater au moins 4 semaines. Ça explique évidemment son absence au dernier match olympique, les matchs de la ronde des médailles. Est-ce que, PO, les Pingouins vont être capables de se garder la tête hors de l'eau dans la course aux séries malgré la perte de Crosby? Est-ce qu'ils ont un alignement assez garni pour ça, selon toi?
Moi, je pense que ça va être compliqué, mais qu'est-ce qui les avantage s'ils sont dans la métropolitaine?
Beaucoup plus faible.
La quantique est vraiment très forte, que ça va jouer entre eux, les Caps puis les Blue Jackets qui sont vraiment bons présentement. Mais avec Crosby qui est parti, ça va faire vraiment mal. J'ai l'impression que les Pingouins, je pense qu'ils s'en foutent un peu s'ils font les playoffs. Je pense qu'ils essaient de comme faire un retool
un petit peu. Puis donnons le crédit à Kyle Dubas. Dans la dernière année, il a quand même été capable de rajeunir un petit peu l'alignement des Pingouins. Évidemment, son repêchage l'an passé, il a été capable de repêcher des gars comme Ben Kindle, Bill Zonon notamment. Mais tu as plusieurs jeunes qui commencent à intégrer l'alignement et le défenseur québécois Samuel Girard est un autre exemple de ça. Donc Brett Kulak qui passe à l'Avalanche du Colorado pour Sam Girard et un choix de deux. Les Pingouins n'ont pas été des vendeurs, disons dans le cas de Kulak, on l'a pas échangé pour des choix des espoirs. C'est quand même une transaction hockey, on met la main sur Sam Girard.
Ouais, exactement, puis ça fait du bien. Puis il y a eu, tu sais, moi je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de narratifs dans l'organisation des Pingouins en ce moment qui font en sorte que l'équipe doit continuer à pousser. Ben Kindle, c'est une belle surprise. Personne ne s'attendait à ce que Ben Kindle connaisse une bonne saison comme ça. Arthur Shilovs, qui a bien commencé l'année pour les Pingouins, n'était pas censé faire le club, finalement arrive là, gagne. On sort Jarry de là, et je vais arriver à mon radar, si vous me permettez, après les gars. On s'en va chercher Stuart Skinner. Stuart Skinner est tout feu, tout flamme à Pittsburgh. C'était vraiment le changement qu'il fallait. On inclut les jeunes. On parle de Rutger McGroarty aussi, qui a plus de responsabilités présentement au sein de l'alignement des Pingouins. Moi, je pense qu'on va continuer à pousser. Je vais avec mon radar. Vas-y. Parce que ça a un lien.
Ouais.
Tristan Jarry est épouvantable.
Non, mais quelle transaction.
Il est épouvantable de à Edmonton. Merde. Pour vrai.
Regardez pour les Oilers.
Écoutez ça, OK? Tristan Jarry, en ce moment, a un pourcentage d'arrêt de 864 à Edmonton. Une moyenne de buts alloués de 3,85. Néanmoins, parce que c'est les Oilers, puis il y a une bonne production offensive, il y a une fiche gagnante, il est 6-4-1. Mais on s'entend-tu que c'est pas le rendement que tu veux quand tu échanges ton gardien numéro 1? Là?
Ben, moi, j'ai comme l'impression que le problème à Edmonton, c'est pas le gardien. Parce que ça fait une coupe qu'ils essayent. Ils ont essayé.
Ouais, mais en même temps, ils essayent des gardiens.
Jarry l'ont essayé.
Ordinaire, là. Il y a aussi, t'sais, c'est pas des gars élites non plus qui essayent.
Non, ouais, mais tu sais, prends une chance.
Il y en a aucun qui marche.
Prends une chance. Tu sais, Connor Ingram, là, il avait fait un retour dans la Ligue nationale.
Ouais, puis il y a
des statistiques.
Ça
avait quand même bien été.
Un
là.
Petit peu meilleur que Jarry en ce moment.
Connor Ingram, c'est 8,95, 6,51, 2,71 en ce moment à Edmonton.
Masterclass de la part de Carl Dubas. Faisons un petit peu un pas de recul sur cet échange-là. T'échanges Tristan Jarry et le Québécois
Samuel Poulin
aux Oilers. C'est un joueur de Ligue américaine, c'est pas grave. Pour Stuart Skinner, un choix de deux. Brett Kulak, tu flippes Brett Kulak, donc au final, tu obtiens Stuart Skinner, qui est un meilleur gardien que Tristan Jarry,
bon.
Et il fait moins d'argent. Je pense que c'est quelque chose comme 2 ou 2,5 millions de dollars de moins.
Exact.
Deux choix de deux, et Samuel Girard, qui est un défenseur un petit peu plus jeune, dans le milieu de la vingtaine, qui pourrait peut-être être à Pittsburgh à plus moyen, long terme quand même. Très bon coup de la part de Carl Dubas, alors que pour les Oilers,
t'as
un gardien qui est moins bon puis qui coûte plus cher, je la comprends pas.
Puis quand tu regardes les choix des Pingouins, je pense qu'ils ont comme 6 ou 7 deuxième tours dans les prochaines années, plusieurs choix de troisième tour. Il manque des choix de premier tour, mais ils ont vraiment beaucoup de choix. Donc Carl Dubas, en gardant une équipe compétitive qui sont présentement en série, ils ont beaucoup de choix.
Ouais,
donc,
c'est un bon point que
t'amènes. C'est un bon point que t'amènes. Ils ont tous leurs choix de premier tour jusqu'en 2029. Choix de deuxième ronde, il y en a deux cette année, deux en 2027. 3 en 2028 et 2 en 2029. Et des choix de troisième ronde, il y en a deux cette année, 2 en 2027 et 2 en 2028. Donc, c'est ça. Carl Dubas qui a vraiment été capable un petit peu de aller accumuler des choix sans avoir à échanger son noyau. Ça va être intéressant à suivre.
Ouais, puis c'était une grosse remarque qu'on avait là, du côté des Penguins, qu'il n'y avait pas d'avenir, puis qu'on n'était pas capable d'aller chercher des affaires, puis qu'on attendait la fin d'une époque.
Parce que clairement, il...
Il s'est quand même retourné assez vite, le Carl Dubé, sérieusement.
Tu sais, ils échangeront pas Crosby, Malkin, le temps. Si on lit un petit peu entre les lignes, là,
ouais.
On aurait pu le croire, mais là, avec les succès qu'ils ont eu cette année, on dirait que c'est vraiment important pour eux de garder ce noyau-là ensemble jusqu'à temps que les joueurs décident eux-mêmes.
Ouais.
De prendre leur retraite, de je sais pas, signer comme agent libre ailleurs, puis je respecte ça. Il n'y a plus beaucoup d'organisations comme ça qui sont dans la Ligue nationale de hockey. D'un point de vue construction d'équipe, est-ce que c'est la chose à faire? Assurément pas. Malkin et Le Temps auraient dû être échangés il y a 2 ans quand ouais. Il allait devenir agent libre.
Exact.
Ils ont pris cette avenue-là, puis pour le moment, ça se passe bien avec les Pingouins.
Est-ce que des gars comme Raquel, Manta, qui connaît quand même une bonne saison, pourraient être échangés selon toi?
Manta, je pense pas.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec les Pingouins, malgré la blessure à Crosby, ça va être une espèce de statu quo. Peut-être transaction hockey. Tu fais bien de le noter qu'ils ont plusieurs agents libres qui s'en viennent cet été. Evgeny Malkin, je viens d'en parler, on ne sait toujours pas c'est quoi que l'avenir lui réserve. Il est quand même rendu à 39 ans, Malkin. Kevin Hayes devient agent libre. Anthony Manta aussi. Noel Achiari. Puis en défense, c'est Connor Clifton. Fait qu'ils ont quand même des gars en théorie qui pourraient vendre. Même Stuart Skinner, mais... C'est chiant pour Crosby s'il revient dans un mois. Puis là, le club est vidé, ils sont rendus dans le cave. Il est comme, come on, puis, boys, je vous avais amené en série.
Les gars, on a pas parlé d'un gars qui est à Pittsburgh qui est vraiment fort, c'est Yegor Shinaev, qui a 12 points en 18 games à Pittsburgh.
Ouais, un autre coup, il a été capable de se rajeunir.
Exactement.
Vraiment, moi, j'ai détesté le travail que Carl Dubé se fait avec les Leafs. Pour moi, c'est une des raisons pourquoi ce club-là décevait année après année. Il a donné beaucoup trop d'argent à des joueurs trop rapidement. Mais il faut le donner. Dans la dernière année... Il s'est ressaisi
vraiment,
à Pittsburgh.
Changé...
Faisons le tour des autres équipes rapidement dans la ligue. Moi, l'équipe qui m'intéresse le plus, qui me fascine le plus dans la prochaine semaine, c'est les Panthers de la Floride. Champions en titre, 2 fois, ouais. Mais saison hyper décevante, sont en voie de rater les séries. Et eux aussi, bon, la blessure à Barkov ne les aide pas, mais on ne sait toujours pas quand il va revenir. C'est très possible qu'il soit vendeur avant cette date limite des échanges.
Ben moi, j'ai l'impression que ça se peut qu'ils restent même statu quo, parce qu'on a vu Tampa Bay après leurs 3 finales de la Coupe, donc on a gagné 2. Il y a eu des années un peu plus difficiles, ils ont perdu au premier tour, c'était moins évident, mais ils n'ont pas rien vendu vraiment, ils ont attendu, puis là, on les revoit, sont de retour au sommet. Donc, on pourrait voir cette année, les Panthers, ils disent, bon, Barkov n'était plus là, Matthew Tkachuk blessé aussi. Donc, ouais. On va attendre, puis on va repartir l'année prochaine, parce que s'ils restent tous en santé l'année prochaine, ils vont avoir une bonne équipe. Là. Ils manquent leurs meilleurs joueurs.
Mais ils ont quand même quelques agents libres que tu pourrais peut-être obtenir de quoi pour eux. Je donne un gars comme AJ Greer,
ouais.
Joueur de 4e trio. T'sais, si tu peux flipper AJ Greer pour un choix de 3 à la date limite, pourquoi pas? Thomas Schnozek aussi, je pense qu'il rentre dans cette catégorie-là. Mais tu as raison, ils ne toucheront pas à leur noyau. Un gars comme Anton Lundell, ce serait fou de l'échanger. Oh, j'ai l'impression que c'est un genre de reset. Peut-être un an qu'on va faire pour les Panthers. Leur choix de premier tour, on a appris ça les dernières semaines, mais finalement, celui de la transaction Seth Jones, il est top 10 protégé.
Okay.
Fait que même s'il coule assez, ils vont être corrects. Laisse-moi juste sortir la précision exacte.
Mais là, il y a des rumeurs sur Bobrovsky aussi.
Ouais, voilà, ben, allez là-dessus, les gars. Allez
c'est
là-dessus.
Ça. Ben, ce que je voulais dire, c'est que je pense que tu as quand même des vieux gars qui pourront vraiment aider à court terme les Panthers. T'sais, on s'entend, puis le point du Lightning est excellent. C'est vrai que on s'est assuré de signer ces gars-là à long terme parce qu'on veut que ces gars-là restent ici. Mais admettons, tu sais, Marchand qui a quand même un gros contrat, on s'entend. Marchand qui est à 37, Bobrovsky qui est à 37, un genre de Jeff Petrie qui peut jouer sur un top 6 en quelque part. Ça, je trouve que ça peut être quand même des options quand même assez intéressantes pour les Panthers à transiger parce que, surtout, mettons, pour Marchand et Bobrovsky...
Ils changeront pas Marchand, ils viennent de le signer cet été.
Ils viennent de le signer, je le sais, mais... Tu trouves pas une Marchand, il a ralenti pas mal, là. T'sais, moi, je trouve que c'est difficile.
Ouais, mais il un était vétéran comme ça, tu sais, il a accepté de signer à long terme avec les Panthers. Tu peux pas l'échanger.
Est-ce qu'un gars comme Maki Samoskevich pourrait intéresser?
Ouais, son développement déçoit peut-être un petit peu. Mais Bobrovsky, c'est une discussion qui est intéressante. Parce que lui, il devient agent libre cet été. 10 millions de dollars sur le plafond. Est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de situation peut-être à la Tomáš Plekanec? On échange Bobrovsky à la date limite. Il re-signe en Floride l'été prochain parce que
Ouais, faire ça un genre peut de deal.
Toute une acquisition pour une équipe de mettre la main sur un gars qui vient de remporter deux Coupes Stanley.
Ouais, surtout
là, ça serait qui leur gardien pour le reste de la saison? Ça serait vraiment
mais
désastreux.
C'est ça, mais
là.
C'est dans l'optique où ils décident de mettre tomber. Une croix sur l'année.
Exact. Tu sais, je dis ça, je dis rien, mais une place comme Columbus, c'était Bobrovsky.
Un retour à Columbus.
Il avait connu du succès là-bas. C'est lui qui a éliminé le Lightning en 4 quand il y avait eu leur saison de 62 victoires. Il y a un Vizina, deux Vizina là-bas, je m'en souviens pas.
Il y en a un
Vizina là-bas, mais quand même, tu sais, ça peut être une situation intéressante dans une équipe qui veut pousser pour les séries, puis qu'on s'entend qu'une des grandes instabilités, c'est devant le filet.
J'aime ça. Il y a pas mêlé une équipe qui cherche un gardien en ce moment. T'as pas, tu regardes, on a fait l'exercice cette semaine à la radio, Hugo, mais on va le faire avec toi, PO, pour nos auditeurs de Radar. Je pense que ça peut être intéressant. Les équipes en série... ils ont à peu près tous des gardiens. Je fais un survol rapide. Le Lightning a Vasilevskiy. Les Sabres, Alex Lyon fait un travail formidable avec eux en ce moment. Les Hurricanes ont Brandon Bossy, une des belles surprises de l'année. Ils n'auront pas cherché quelqu'un. Les Penguins, drôle de situation, mais regarde, Skinner fait la job. Islanders ont Sorokin. Les Red Wings, ils ont John Gibson. Les Bruins ont Swayman. Même si tu regardes une équipe exclue du portrait des séries, les Capitals, ils ont Thompson et Lindgren. Dans l'Ouest, tu as le duo des Woods de Colorado. Les Stars ont Ottinger. Le Wild, ils ont Gustafsson et Wallstedt. Ça pourrait être une destination intéressante pour des gardiens. Il y a un autre gars qu'on n'a pas parlé, là, mais on va se pencher sur ces deux noms-là après. Vegas, ils ont Aiden Hill et compagnie. Les Ducks ont Dostal. Tu sais, Bennington aussi, qui pourrait être échangé avec les Blues de Saint-Louis, lui devient agent libre dans 2 ans, en 2027. Est-ce que vous voyez ces gars-là bouger? Et l'équipe que j'ai pas nommée, le Canadien... Montembeau et Debèche, c'est un des duos les plus
chambranlants,
point d'interrogation. Est-ce que le Canadien doit s'intéresser à un de ces deux gardiens?
Moi, je pense qu'on ne devrait pas aller chercher un gardien parce que oui, on veut faire les séries, on veut peut-être faire un bout de chemin, mais on le sait que cette année, c'est pas notre saison. Puis on a nos deux gardiens du futur en Debèche et Fowler. Puis on le sait, à chaque une semaine et demie, il y a un gardien qui part en feu. Donc, je pense qu'on est correct du côté des gardiens des Canadiens. La seule autre équipe qui pourrait, c'est les Oilers, mais ça serait un peu malaisant d'aller rechercher encore un gardien quand tu as fait la grosse transaction pour Jarry. Donc, ça devient compliqué d'avoir une équipe transitée pour un gardien. Donc, quand vous avez nommé Columbus, je trouve que c'est là que c'est intéressant.
Mais tu sais, pour ce qui est d'Edmonton, en fait, si tu joues pas en leur faveur, c'est
ils ont pas d'argent.
Au niveau de la masse salariale. Ils ont pas d'argent, ils n'ont aucun lus. Parce que si c'était pas une question de masse, j'aurais dit Bennington à Edmonton, c'est là que ça se passe.
Ah, ce serait super logique.
C'est vraiment ça. Mais là, à cause de la masse salariale, je sais
pas
si ça peut arriver.
En ce moment, là, au moment où on se parle, ils ont 10 088 $ sur le plafond.
C'est ça, exact.
Beaucoup,
mais à la date limite, ils vont avoir 12 009 $
Exact. Puis Saint-Louis, là, ils devraient vraiment concrétiser sur le fait qu'ils vont nulle part en ce moment.
Ouais.
Jordan Binnington, il est peut-être au sommet de sa valeur. Mm-hmm. La dernière fois qu'il a été aussi haut, c'est quand il venait de gagner la Coupe cette année, puis c'est là qu'il a signé son gros contrat.
Parce qu'elle avait baissé après.
Exact.
Mais là, elle a remonté avec les Olympiques,
avec
les quatre nations.
Exact. Et des équipes qui envisagent avoir une fenêtre de 2-3 ans, on prend, je sais pas moi, Wild du Minnesota,
mm-hmm.
ça pourrait être une destination intéressante parce que le gardien-là va se battre pour chaque rondelle, il va vouloir gagner. Puis le Wild pourrait être capable de gérer quelques contrats qui pourraient partir.
Ouais.
Aussi, on s'entend, et là, je suis pas sûr de mon affaire, mais je pense que Jesper Wallstedt est encore sur son contrat recrue. Ce qui fait en sorte que si on veut aller chercher un gros élément puis on est prêt à donner Wallstedt, Bulgarin qui avait été quand même vocal comme quoi Gustafsson, c'était quand même son homme. Là. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant. Ça pourrait être...
Il y a
des
Olympiques très difficiles.
Ça pourrait être une monnaie d'échange quand même assez intéressante pour le Wild. Mais Bennington, c'est définitivement le gars qu'il faut aller chercher.
Puis en plus, le Wild, ils veulent aussi un deuxième centre, de ce que j'ai compris. Où ça pourrait même devenir un premier centre, parce que leur premier centre, c'est quoi? Eric Sonek.
Ouais.
Donc,
les Blues,
ils ont des choix. Ils ont Shane, Thomas, qui pourrait aussi être dans un package. Si la pièce maîtresse, c'est Wallstedt, puis peut-être un autre jeune. Donc, ça pourrait être intéressant.
Les Blues ont vraiment des morceaux intéressants s'ils décident de tirer sur la gâchette et d'être vendeurs. T'as Caro et Thomas... qui sont plus jeunes, qui pourraient te rapporter énormément, mais s'ils décident d'échanger Caro et Thomas, ça veut dire qu'ils vont entamer une reconstruction complète.
Mm-hmm.
Je ne suis pas sûr et certain qu'ils vont aller dans cette direction-là.
Peut-être un des deux qui va rester.
Tu l'as dit, Colton Parayko, un gars qui est un peu plus vieux, 32 ans, lui aussi, sa valeur est élevée en ce moment avec sa présence aux Olympiques. Braden Chen, Justin Faulk. Les Blues vont vraiment être intéressants à suivre. Ils ont fait les séries l'an passé, mais cette année, ça décolle pas du tout. Si Doug Armstrong décide d'être vendeur à sa dernière année avec l'équipe, c'est Steve Ott qui prend sa place l'an prochain. Ouais. Il pourrait récolter un méchant pactole.
Ouais, vraiment, vraiment. Puis pour vrai, j'aimerais pas être l'iPhone de Doug Armstrong en ce moment. Ça doit non. Ça doit être incroyable à quel point de recevoir des appels, pour vrai. Mais c'est d'être capable de cibler là-dedans. Je pense que c'est quand même un bon DG. Fait que il y a quand même des choses à faire par rapport
mais là,
à ça.
Mais parler de reconstruction complète, mais ils ont quand même déjà plein de jeunes joueurs, genre Snuggerud, ils ont Holloway, ils ont Neighbors à défense, ils ont
réinitialisation, Robert. Diront. Ça serait peut-être un mot plus juste.
Ils font une transaction un peu avec des jeunes joueurs de 22-23 ans déjà prêts. Plus là, tu vas chercher un joueur top 5. Dans deux ans, déjà, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Ça pourrait aller rapidement. Comme tu as dit, Wallstead est déjà prêt. Là, si tu vas chercher un gars, je sais pas, je vais dire...
Yurov, par exemple.
Quelque chose comme ça. Dans deux ans, tu pourrais déjà être très compétitif.
Ouais, puis c'est pour ça que... Je suis pas sûr qu'échanger Kyrou ou Thomas, ce serait la meilleure des idées.
Exact.
T'sais, si tu peux avoir justement un vraiment bon jeune joueur de 22-23 ans, peut-être, mais ça risque plus d'être « OK, on va échanger les vieux, Bennington, Parayko, Faulk, Shen, parce que dans 2-3 ans, si ça se passe bien, ils pourront être compétitifs, les Blues de Saint-Louis. Ils n'ont pas besoin d'entamer une reconstruction de 5-6 ans. » T'as pas nommé Logan Mailloux, par contre, dans les bons jeunes joueurs. Je suis très déçu. Oh, jeune défenseur droitier.
Exact.
Saison décevante, par contre, pour lui.
Ben, c'est, pas...
c'est épouvantable. C'était lui qui avait le pire cumulatif des plus et moins à un moment dans la saison.
Je pense qu'il est moins 23 en 43 matchs.
C'est épouvantable.
Moi, je comprends pas pourquoi ils sont allés le chercher. C'est lui qui voulait. C'est pas comme si c'était dans un package. C'était vraiment juste lui pour Boldy.
Ouais, il l'avait ciblé. Comme les Prédateurs avec Justin Barron.
Ouais, puis qui ont passé comme 10 mois là, à essayer d'aller le chercher. Là.
Il
ça,
voulait...
C'est fou, là.
Il voulait vraiment.
Non, ouais, c'est fou, ça.
Il voulait vraiment.
Ouais. Target, Saint-Louis, ça va être intéressant ce qu'ils vont faire. Quel nom va partir en premier à Saint-Louis, selon vous?
C'est vraiment compliqué à dire. J'ai l'impression qu'un gars comme Shen pourrait vraiment être très intéressant parce qu'il y a les gros centres qui sont intéressants. Il y a Kadri, mais je pense qu'il y a un trop gros contrat. Il y a Trocheck. Donc, Shen pourrait être une monnaie d'échange importante.
Ouais. C'est quand même 6,5 millions jusqu'en 2028, Shen.
Ouais.
Mais sinon, Parayko, il faut vraiment donner beaucoup parce que c'est un gros défenseur. Il a même fait Team Canada. Ouais. C'est vraiment dur de dire qui va être le premier. Puis aussi,
mais mettons, on se mouille.
Moi, j'irai avec Shen pour le premier.
Shen? Ouais. Allez.
Ça va être plate. Moi, je vais y aller avec Justin Faulk.
OK.
Un peu moins sexy comme réponse.
À cause que c'est un gars qui peut bien compléter.
C'est ça, exactement.
Qui est rendu vieux.
Parmi les autres équipes qui pourraient être des vendeurs, il y a les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs, au moment où on se parle, ils sont à 6 points d'une place en série. Ça va pas, là. T'sais, vraiment, depuis le début de l'année, ils connaissent des séquences en montagne russe, mais plus souvent qu'autrement, on a de la misère à aligner les victoires. Évidemment, immense perte, Mitch Marner, pour cette équipe-là. Et les Leafs qui n'ont pas non plus leur choix de premier tour. Il est top 5 protégé parce qu'ils l'ont échangé l'an passé dans la question, dans la transaction Brandon Carlo. Mm-hmm. Est-ce que Brad Treliving devrait prendre la décision de liquider quelques actifs, les Bobby McMahon de ce monde, puis mettre une croix sur la saison 2025-2026?
Ben, je pense que tu as dit le bon nom, là, Bobby McMahon, parce que je regarde l'alignement, puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui saute aux yeux.
Non.
T'sais, ils ont été quand même agressifs l'année dernière pour aller chercher Scott Laughton.
Ben lui aussi pourrait être échangé.
Ouais, c'est ça, lui aussi, ça pourrait être un autre nom pour venir compléter un bottom six. Mais à part ça, va falloir que Treliving trouve des moyens de liquider. Parce que moi, je pense que... Puis on en a parlé un peu en nombre tantôt, là, mais je pense que les Maple Leafs, même s'ils essayent, ils sont pas capables de suivre le rythme des grosses équipes qui vont être fortes en séries éliminatoires en ce moment. Puis, tu sais, je regarde la brigade défensive, là. Simon Benoit, j'ai rien contre le gars. Troy Stetcher, c'est pas des défenseurs de la Ligue nationale.
Non, et Morgan Riley a énormément ralenti. Il est plus ce qu'il était il y a quelques saisons. Puis, c'est dommage, mais celui qui risque de payer pour les insuccès des Leafs, ça va être Craig Berube à la fin de la saison.
C'est sûr.
Potentiellement même Brad Treliving. PO, penses-tu que les Leafs vont être vendeurs ou eux sont assez bêtes pour têtu pour se dire...
C'est plus têtu, je pense.
On y va jusqu'au bout.
Ben, si son vendeur, comme Hugo l'a dit, il n'y a pas tant de pièces qui peuvent être vendues parce que le core est signé à long terme.
Tu ne vas pas échanger William Nylander
maintenant.
Il y a très peu à échanger. Peut-être un gars en défense comme Olivier Martin-Larsson qui connaît vraiment une bonne saison, mais s'ils vendent, ça ne sera pas grand-chose parce que je peux pas croire qu'ils vont penser qu'ils vont être dans la cave plusieurs années. Donc, ça serait juste quelques pièces, comme tu as dit, un Bobby Beckman, quelque chose comme ça. Ça se pourrait, Mais la dernière semaine, la prochaine semaine va être très intéressante pour plusieurs équipes. Là. Les Panthers, les Maple Leafs, les Penguins, voir où ils sont rendus.
Il faudrait qu'ils réalisent, par contre, là, qu'à un moment donné, il faut tomber là, pour mieux remonter. Tu sais, ils l'ont vécu un peu là, au début
des
années 2000.
Tu peux pas trop tomber quand t'as Matthews et Nylander qui sont payés des gros bidous.
Je suis 100% d'accord avec toi.
Ça se peut aussi qu'ils se disent qu'il faudrait absolument être top 5 pire équipe pour pas que notre first s'en va. Peut-être c'est ça qu'ils vont se dire aussi. Peut-être ça.
Ouais.
Là, ils vont se dire,
mais
là, on va voir.
Peux-tu vraiment être une top 5 pire équipe quand t'as Matthews et Nylander?
C'est ça qui
ton...
est tough. Puis ces joueurs-là vont pas l'accepter non plus, je pense.
Ce sont vraiment... Ça, c'est une terrible transaction. Brandon Carlo puis les Leafs qui ont super mauvaise historique. Là.
Surtout
échange avec les Bruins. Là, on peut remonter à la transaction Phil Kessel. Encore plus tôt, la fameuse transaction Rask pour Andrew Raycroft.
Ouais,
message à Brad Treliving et au prochain DG des Leafs, si tu nous écoutes en ce moment sur Radar, bouge pas avec les Bruins. Là. Réponds pas aux appels de Dan Sweeney.
Il y a une malédiction. Là. Malédiction. Linton, il est incroyable en ce moment à Boston.
En plus.
Plus 18, 29 points en 50.
Carlo est pourri.
Pourri.
Il est soft. Il est vraiment pas ce qu'il pensait avoir.
Non.
Imaginez les Leafs, ça se remet pas. Puis finalement, ils ont le 7e choix au repêchage.
Et ça ferait mal.
Puis ça s'en va aux Bruins.
Ouais.
Tu sais, c'est une saison perdue.
Puis ça se peut que ce soit un très bon défenseur disponible. Il y en a quand même plusieurs. Puis on le sait qu'en défense, eux, ils ont de la difficulté. Donc, perdre un défenseur étoile plus Minton qui a l'air d'être un centre top 6, ça fait très, très mal.
Ouais. Une autre équipe qui n'a pas son premier choix, les Sénateurs d'Ottawa, eux aussi, ils ont comme pas le choix d'être bons. Le choix qui avait été perdu à cause de toute l'histoire avec la clause d'un échange d'Evgeny Dadonov. Comment est-ce que vous voyez cette fin de saison des Sénateurs? Est-ce qu'ils vont être acheteurs en vue de la date limite? Ils ont quand même plusieurs vétérans qui deviennent agents libres à la fin de l'année. Claude Giroux, David Perron, Nick Jensen. En même temps, ça sert à rien de les échanger parce que tu vas pas couler par exprès. Tu n'auras pas ton premier choix de toute façon.
Moi, je pense qu'ils vont essayer de faire les séries parce que plusieurs statistiques avancées montrent que si les gardiens font les arrêts, Ottawa joue très, très bien.
Ouais,
un peu comme le match contre les Canadiens. Ils nous ont dominé, mais on a gagné 6-5. Là.
Ouais.
Ça n'a pas rapport. Puis là, Ullmark, s'il est capable de revenir en santé.
Ça avait bien été pour lui à son retour. Là.
Ouais, donc, vraiment.
Je pense que ça pourrait être une équipe qui essaie de faire les séries. Mais l'Atlantique, c'est vraiment incroyable. Là. Il y a une équipe comme Boston. Moi, je pensais pas qu'elle allait être encore compétitive. Buffalo,
ben, jouons
juste
justement à ce jeu-là. Ok. Parce que si tu regardes les séries dans l'Est, le portrait est assez serré. Tu as quelques équipes qui se démarquent, quelques autres. Que non. Est-ce qu'il y a une équipe en ce moment qui n'est pas en série que vous voyez rentrer, puis est-ce qu'il y en a une qui est en série en ce moment que vous voyez sortir?
Ben, Ottawa, tu sais, on parlait d'eux comme étant un push. S'il y a une surprise à avoir dans l'Atlantique, selon moi, ça va être eux.
Moi, je vois les Capitals rentrer à la place des Pingouins. La métro est plus faible. C'est un peu ce qui change la donne, puis qui joue contre les Sénateurs, c'est que l'Atlantique est tellement plus fort. Si les Sénateurs étaient dans la métropolitaine, il y aurait peut-être des chances de rentrer.
Peut-être que Détroit vont l'échapper. J'ai quand même peur. Parce que c'est John Gibson, c'est un excellent gardien de but. On savait qu'il voulait changer d'environnement. Il est arrivé à Détroit, connaît beaucoup de succès. Mais depuis quelques années, on sait que Détroit, ça a été difficile juste de terminer le travail. Puis je sais pas si on est dans une année où ça va être plus solide pour eux autres. Mais... si on commence à échapper des matchs en fin de saison, ça peut être difficile. Puis comme tu l'as dit, une équipe mettons, comme Columbus qui ont beaucoup de momentum, une équipe comme Washington aussi qui peuvent surprendre, ça peut être des situations où Détroit pense qu'ils ont une longueur d'avance, mais finalement, les équipes sont pas tant loin dans le rétroviseur.
Pour moi, il y a seulement deux équipes qui sont sûres de pas sortir des séries. Pour moi, c'est les deux qui sont premières de leur division, c'est les...
Les Hurricanes puis le Lightning.
Le Lightning puis les Hurricanes. Selon moi, les autres, il n'y a personne qui sont vraiment sûrs de rester. Mais moi, je veux vraiment un changement dans la métropolitaine. Soit les Islanders ou les Penguins, j'y crois pas. Je pense qu'il y en a une qui va sortir pour soit les Capitals ou Columbus. Surtout si, comme vous avez parlé, Bobrovsky, s'il pourrait aller à Columbus, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une équipe vraiment qui surprend. Donc pour moi, je vois les Penguins sortir, surtout avec Crosby qui est blessé. Mais dans l'Atlantique...
Tu verrais-tu les Islanders terminer deuxième de la métro?
Ouais, ça se pourrait. Là, cette division est tellement faible.
On dirait que c'est ça. Sorokin joue vraiment bien. Schaefer, grosse surprise.
Ouais.
J'ai bien hâte d'aller voir ce soir les Islanders.
Ouais, moi aussi.
Ils ont l'air de vraiment bien jouer derrière Patrick Roy. Là. On dirait que ça fonctionne.
Puis si on joue au même jeu dans l'Ouest, évidemment dans la Centrale, personne ne touche aux trois équipes de tête. L'Avalanche, les Stars et le Wild sont encore incroyables. Pour eux, c'est vraiment une question de ça va être quoi l'ordre en série. Tu veux pas terminer 2 ou 3, mais l'Avalanche a quand même une avance sur eux. Ils vont s'entretuer, tant pis pour eux. Mais dans les autres équipes, dans la Pacifique, dans les équipes repêchées, Est-ce qu'il y a une équipe pour vous qui pourrait remonter au classement, se faufiler en série, ou est-ce qu'il y en a une qui va décevoir et se sortir du portrait?
Ben, les Kings, là, avec tout le momentum qu'ils génèrent, n'ont pas vraiment le choix d'être capables de se faufiler en séries éliminatoires.
Fiala est blessé, par contre.
Fiala est blessé. Perte. Grosse perte. Bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire à la date limite des transactions. C'est la dernière année d'Andy Kopitar. Ils sont à 3 points en ce moment du Kraken de Seattle et la dernière place des équipes repêchées. Je pense pas que personne s'attendait à ce que le Kraken soit là. S'il y a une équipe qui peut être en baisse de vitesse, c'est cette équipe-là. Si j'avais un switch à faire dans l'Ouest, je pense que c'est LA pour Seattle, sérieusement. Parce que Utah, ils sont quand même assez bien partis. C'est une jeune équipe qui peut vraiment comme solidifier leur place en tant que première équipe repêchée. Eux qui peuvent pas rejoindre le top 3, comme tu l'as dit, Oli. Mais je pense que le Triton, ils peuvent connaître une baisse de régime, puis les Kings peuvent prendre leur place.
Moi, il y a deux équipes qui sont en série que j'ai pas tout à fait confiance, comme tu l'as dit, le Kraken et les Ducks. Ça fait souvent 10 victoires, 7 défaites, 8 victoires.
C'est vraiment une équipe de séquence.
Mais en même temps, quand je regarde les équipes qui essaient de rentrer, Nashville, j'ai pas confiance, les Sharks sont encore
jeunes. Moi, j'aimerais ça, les Sharks. Le problème, c'est que Celebrini est tout seul.
Ouais, il est vraiment
mais
tout
ce qu'il est en train de faire avec cette équipe-là cette année, c'est tellement impressionnant. Aux Olympiques, il a été hallucinant sur la ligne avec McDavid. Je veux voir Celebrini porter les Sharks jusqu'en série. Le problème, c'est qu'ils n'ont personne. Ils sont allés chercher Kiefer Sherwood avant le gel olympique. C'est pas assez. Pour
c'est l'histoire d'une
c'est
saison
une équipe
aussi,
vraiment médiocre. Là. C'est juste que quand tu as un joueur aussi exceptionnel que Celebrini qui est capable de t'élever comme ça, ça aide énormément.
Il y a des joueurs qui s'en viennent. Tu sais, je veux dire, Sam Dickinson va être un bon défenseur. Yaroslav Astarov commence tranquillement.
C'est une future puissance.
Vraiment. Là,
on n'est pas très loin de ça.
Non, exact.
Puis les Blackhawks aussi, mais les Blackhawks sont pas mal plus en arrière. Là.
Ouais. Mais ils ont aussi des jeunes qui vont se développer quand même assez rapidement, selon moi. Là, tu sais, les Frank Nazar, Oliver Moore de ce monde, les Kevin Korchinski, c'est des bons joueurs qui ont été draftés. Mais quand tu pars avec un corps très jeune dans la Ligue nationale, ça va prendre du temps parce que ces gars-là doivent apprendre à grandir ensemble.
Exact.
Il n'y a pas de vétérans ou pas beaucoup de vétérans pour les supporter.
Puis en plus, présentement, les Sharks, ils ont seulement 55 matchs de jouer, donc ils ont deux matchs en main sur tout le monde, même que certaines équipes qui ont 3 ou 4 matchs en main. Donc ça pourrait les aider aussi.
On pourrait voir les Oilers tomber peut-être. S'ils continuent à perdre des avances.
Hey, ce serait toute une déception. Ça.
Ben sérieusement, oui. Là.
Mais je pense... McDavid et Draisaitl trouvent toujours une façon
c'est ça qui arrive.
D'être tellement bon que même si les Oilers ont mêlé un trou, ils réussissent à se frayer un chemin et à gagner des rondes en série. C'est juste que c'est un alignement qui...
Désuet.
Vraiment mauvais. Là.
Ouais. Vraiment. C'est difficile. Beaucoup trop d'argent à beaucoup de joueurs.
Ouais. Bon, ben ça fait pas mal le tour, les gars. Aviez-vous d'autres points à apporter, des sujets que vous vouliez aborder?
Ben moi, je voudrais qu'on parle de Nikita Kucherov.
Vas-y.
Ça serait mon radar de la semaine.
OK.
Parce que je trouve que il commence, là c'est dur à dire pour Kucherov, à être underrated. Parce que ça fait 2 ans qu'il gagne le Art Ross. Puis là, il a encore eu 3 points hier. Il est rendu à 2 points de la tête de McDavid. Et il a pas eu le Art les 2 dernières saisons. Ça a été MacKinnon et Hellebuck. Puis là, je trouve que encore là, il est encore tellement bon offensivement. Puis je pense qu'on oublie qu'en série, Pointe, Kucherov, Vasilevskiy, c'est des gamers. Que là, on parle souvent de Colorado, les Stars, tout ça, mais moi, j'ai l'impression que Kucherov et son équipe, c'est probablement eux qui vont gagner la coupe. Là.
C'est un bon point que tu abordes parce que c'est bizarre à dire, mais c'est vrai qu'on dirait quasiment qu'il est sous-estimé. On parle toujours de McDavid, de MacKinnon. Là, maintenant, on parle de Celebrini. Kucherov, c'est un allié, mais il est dans la même catégorie que ces gars-là. Il est tellement dominant.
Ouais.
Depuis, probablement, je pense que c'est depuis le début de l'année 2026, il est quasiment sur un rythme de 3 points par match. C'est complètement ridicule.
Ouais,
le Lightning qui continue de gagner, ils sont quoi? 21 et 1 à leurs 22 derniers.
C'est cave. Puis il y a eu 40 points en 15 games, le Kucherov. Là.
C'est n'importe
fou,
quoi.
Là. Puis,
bonne chance de les arrêter en série.
Sérieusement, puis c'est pas nécessairement un centre qui a besoin d'être ton leader incontesté.
Ben
Kucherov
non.
L'est. T'sais, comme on pourrait faire un parallèle avec David Pasternak à Boston,
ouais.
C'est la même affaire. C'est des gars qui ont une éthique de travail influençable et ça marche. Ça a vraiment un impact sur le reste de l'alignement. Fait que non, Kucherov, tu fais bien de le mentionner parce qu'on parle pas assez de lui des fois.
Ouais, puis le Lightning qui, malgré les blessures, Edmund, Point, qui ont été blessés à différents moments cette année, Cirelli aussi, toujours capable de maintenir le droit chemin, de continuer à dominer. Pour moi, il y a beaucoup du crédit qui revient évidemment à Julien Brisebois et John Cooper.
Puis ouais. Aussi, on parle tout le temps de McDavid, MacKinnon pour le Hart, mais si Tampa Bay finit premier même devant Colorado, parce que là, je pense qu'ils sont à 3 points, ça pourrait être finalement Kucherov qui l'a dans les 3 dernières années qui domine du côté des points. Il pourrait être lui qui remporte le trophée Hart.
Très bon radar, mon chocho. Justement, ben merci beaucoup les gars pour cet épisode. J'ai vraiment hâte de voir la date limite là, dans la prochaine semaine, l'action qui reprend dans la Ligue nationale de hockey.
On va avoir des choses à dire semaine
prochaine. C'était le fun les Olympiques, là, mais la LNH, le Canadien, je préfère ça pas mal. Donc on va revenir la semaine prochaine. Le surdoué va nous raconter ses histoires fascinantes de ski de fond.
J'ai hâte.
Fascinantes, certainement. Puis, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.